Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors, je suis ravi aujourd'hui parce que j'accueille sur ce dernier épisode d'Early Stage quelqu'un que je connais bien. Salut Fanny.
Salut Mathieu.
Alors, Fanny Gianceto, que je connais personnellement depuis quelques années et que j'admire sous pas mal d'aspects. aujourd'hui, on va parler de restauration, on va parler de nourriture au sens large, on va parler d'écologie, de responsabilité. Mais avant, je voudrais un peu comprendre un peu mieux tout ce que tu as fait, parce que tu as fait quand même pas mal de choses malgré ton jeune âge. T'as quel âge, Fanny, déjà ?
32 ans.
Ça se fait pas de demander l'âge aux jeunes femmes, hein, mais bon, il paraît qu'en ce moment où on peut demander tout aux hommes et aux femmes, je me permets.
Ça me gêne pas.
T'es encore étudiante, Fanny ?
Non.
Ça y est, c'est fini.
C'est fini depuis quelques années quand même. T'as eu du mal à suivre.
Non, mais je sais, mais parce que entre ta thèse, j'ai eu l'impression que t'avais toujours été étudiante et toujours été prof, tu vois, depuis que je te connais. Donc.
Depuis que tu me connais, je pense que j'ai toujours été prof. Étudiante, non.
Alors, je vais te demander pour commencer de te présenter.
Bah oui, donc je m'appelle Fanny Gianceto. En effet, j'ai 32 ans. J'ai fondé Écotable, qui est un label et une communauté de restauration durable. Avant cela, en fait, j'ai fait une thèse, comme tu l'as dit, en droit international.
Sur un sujet hyper facile à comprendre.
Sur un sujet un peu technique qui est la dette souveraine, mais qui m'a donné pas mal de billes, en tout cas en économie. Et
Attends, la dette souveraine. Alors, vas-y.
Bah, la Grèce,
ouais.
Ou l'Argentine.
Ouais.
Mais je pense que ce qui parle le plus aux gens, c'est la Grèce. Et en 2010, la Grèce qui n'arrive plus à rembourser ses créanciers, c'est la crise des dettes souveraines dans toute la zone euro.
Ouais.
Et c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on
Donc,
fait ?
Je suis un pays. Tous les ans, j'emprunte sur les marchés parce que je suis déficitaire. Donc, je ne récolte pas assez d'impôts pour payer mes fonctionnaires, mes nouvelles routes, tout ça. Et puis à un moment, ma dette est trop grosse et puis je dis à mes créanciers, sorry, mais en fait, je ne vais pas vous rembourser. C'est un peu le fond du sujet.
Ouais, exactement. Après, la différence de la Grèce, c'est qu'elle a caché en fait les chiffres réels de sa dette pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Mmh. Et en fait, lors d'un changement de gouvernement, le nouveau gouvernement s'est rendu compte de la réalité et a dit, ah bah merde, en fait, on va pas pouvoir rembourser tout le monde. Et notamment les créanciers privés, qui sont aujourd'hui très nombreux, puisque les États empruntent sur les marchés financiers, en fait. Un État est comme une personne privée, si elle veut emprunter, une des premières choses qu'elle fait...
Elle a BNP, Jean-Marc,
ouais, c'est un peu
est-ce que tu pourrais me... c'est quoi mon taux ? D'accord.
Ils ont des process particuliers, mais ils émettent des obligations sur les marchés financiers. Okay. Et donc, ils ont des milliers, en fait, de créanciers qui sont aussi bien issus de leur pays que d'autres États. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il faut restructurer la dette, il faut couper. Faut rallonger les délais, etc. Et mon travail, ça a été justement de réfléchir à ça, comment faire un processus organisé de restructuration de dette souveraine pour les États.
Donc tu es docteur grâce à ça, quoi.
Je suis docteur grâce à ça.
J'aurais pu te présenter comme docteur Fanny Gianceto. Autant pour moi. On va pas du tout parler de ça aujourd'hui.
Non, pas du tout.
Mais en revanche, donc t'as fait quand même tout ça pour faire un guide Michelin des tables.
Je dirais pas écologie. Que ça m'a pas servi à rien parce que
j'ai pas dit ça.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai soutenu ma thèse, j'avais besoin de faire quelque chose de ultra concret. Donc ça a vraiment renforcé mon envie et mon besoin de créer autre chose de plus concret. Et puis j'étais engagée à titre personnel sur des enjeux écologiques. Ça m'a conduite après ma thèse à travailler sur des questions écologiques comme les contentieux climatiques, à rejoindre une association qui est un peu connue aujourd'hui qui s'appelle Notre Affaire à Tous, qui a fait l'affaire du siècle. T'as dû suivre, c'est la pétition la plus signée en France, avec plus de 2 millions de signataires en l'espace de quelques jours. Donc j'ai fait ça, je les ai accompagnés avec l'affaire du siècle, je suis devenue porte-parole, etc. Puis je me suis dit, c'est bien le droit, ça sert à plein de choses, ça sert aussi à mettre l'État face à ses contradictions en matière de changement climatique. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement, pour aider cette transition écologique ? Et puis je me suis rendu compte que la restauration en fait avait peu fait sa transition écologique et que là il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc en effet, je suis passée de, enfin je le fais toujours, hein. je suis toujours chercheuse, je suis toujours maître de conférence, je travaille toujours sur les contentieux climatiques. Mais à côté, je me suis dit bah voilà, je vais monter une boîte et je vais et je vais essayer d'accompagner les restaurants dans leur transition écologique.
D'accord, je travaille toujours sur les contentieux. Économique, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça?
Non, climatique.
Climatique, d'accord, ok, ça va. On est quand même sur des univers plus. Peut-être un peu plus proches.
Oui, et puis ça m'a donné plein de. En fait, ça m'a donné plein de billes ensuite pour monter ma société et faire du conseil, parce que c'est ce qu'on fait aussi, et d'avoir une expertise en conseil.
D'accord. Et donc, toutes les histoires de dettes, là, en revanche, c'est un peu du passé.
C'est pas complètement du passé, parce que je continue parfois à faire quelques conférences, ce genre de choses, mais oui, c'est moins prégnant.
D'accord. Alors, on va venir sur Écotable. On va quand même annoncer un truc, c'est que... alors, je crois que on a un petit peu précipité le lancement de quelque chose en échangeant aujourd'hui, parce que je t'expliquais que souvent, sur les podcasts, quand tu passes sur un podcast, c'est le meilleur moyen de faire des abonnés sur un autre podcast. Et toi, tu avais ce projet de podcast en parallèle, le Grill d'Écotable, c'est ça ?
Sur le Grill d'Écotable.
Sur le Grill.
Ouais, exactement. En fait, on s'est rendu compte en fait, qu'on se posait plein de questions, nous, chez Écotable, et que de manière générale, les gens devaient aussi se les poser si on se les posait, et que c'était intéressant d'avoir un podcast qui décrypte ces questions. Et donc, quand je parle de ces questions, c'est en fait des enjeux environnementaux et sociétaux de notre alimentation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un peu un format court, tu vois, 20-30 minutes, sur une question ultra précise, comme les circuits courts sont-ils vraiment vertueux, ou peut-on encore boire du robinet, à chaque fois avec un expert, et d'adresser cette question.
Sachant que les formats longs, c'est vraiment relou. Avec Écotable, tu traites d'un sujet qui est quand même assez fondamental dans tout ce qui est... et très sérieux, hein, dans tout ce qui est écologie, c'est que au-delà de la restauration, la bouffe, c'est presque un endroit où on fait le plus de gâchis au monde. Enfin, c'est totalement n'importe quoi, on est d'accord.
Oui, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, quand je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de concret en matière écologique, je suis allée vers la restauration, c'est que je me suis rendu compte que la restauration, en fait, c'est un impact carbone énorme. C'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que le transport aérien aujourd'hui. Et la restauration, en fait, a assez peu...
Après, pardon, je coupe, hein, tu sais, c'est traditionnel, mais après, c'est logique parce que la nourriture et la restauration, c'est quelque chose qu'on utilise, entre guillemets, tous les jours. Tu n'as pas le choix que de te nourrir. Le transport aérien, c'est quand même... Je ne suis pas du tout là pour défendre Air France, hein, ou Airbus, mais je dis juste que peut-être qu'il y a une certaine logique dans tout ça. C'est que c'est une sorte de nécessité première. Donc, sachant qu'on n'a plus de jardin chacun au bout de son appartement, il faut bien qu'il y ait toute une logistique qui pollue et qui...
Complètement, mais je pense que les gens en ont un peu moins conscience que sur le transport aérien, tu vois. Le transport aérien, tout de suite, tu le vois, tu l'imagines, la pollution que peut créer un avion. Quand tu manges ta tomate, tu t'imagines pas qu'elle a un impact carbone potentiellement assez élevé parce qu'on a utilisé des engrais, parce qu'on a utilisé des serres chauffées, parce qu'on a utilisé des pesticides derrière,
non, c'est vrai.
Qui a fait de la transporter, etc.
Le sens de ma remarque était de dire, en effet, que, évidemment, on peut faire mieux, mais c'est plus que tu peux... abandonner, entre guillemets, ou te dire je vais voler un peu moins, mais en revanche, manger moins de tomates, tu iras manger du maïs, quoi. Mais,
tu peux pas moins manger.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tu dois manger. Oui, complètement. C'est un besoin vital et c'est aussi pour ça que ça pose des questions sociales de manière générale.
Figure-toi, je suis en train de réaliser que j'ai déjà tourné le prochain épisode de Génération Do It Yourself et que je reçois petit teaser pour ceux qui nous écoutent. C'est bien loin de ton, mais on est toujours dans la bouffe, potentiellement dans le est-ce qu'on est dans le vegan, je ne sais pas, je crois végétarien en tout cas, et je reçois le fondateur de Feed, voilà.
Ouh là là.
et c'est hyper intéressant, un super épisode, vraiment, okay. Un super épisode qui arrive dimanche.
J'aurais bien aimé être là pour le contredire un petit peu et
écoute,
débattre.
On pourra faire ça, mais je pense qu'il y a des potentiellement dans son approche, il peut y avoir des solutions à la bouffe et à des tas de problèmes que ça génère. Mais revenons sur Écotable. Alors, est-ce que je peux me permettre d'expliquer ce que je comprends d'Écotable pour que tu me dises si j'ai tort ou raison ?
Bah parfait, comme ça. Alors, je verrai si...
si c'est compréhensible.
Si c'est compréhensible.
Ou si je suis débile, ce qui est toujours une autre option. Alors, quand je disais ça tout à l'heure, je disais un peu le guide Michelin. Il y en a plein d'autres, hein, mais l'idée, c'est d'être capable de donner une sorte de tampon à des restaurateurs principalement, hein, voire exclusivement pour l'instant, qui respectent un certain cahier des charges écologique, peut-être même un peu plus que ça, avec l'idée de dire derrière à des personnes qui ont une responsabilité écologique et développement durable, de dire si vous allez dans ce restaurant là, eh bien vous allez dans un restaurant qui respecte l'environnement et qui suit cette charte, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est l'origine du projet. C'est-à-dire que nous, on est trois fondateurs et on s'est fait la remarque que aujourd'hui, tu peux vraiment adapter ton alimentation chez toi. Tu as de plus en plus de magasins qui distribuent en vrac, qui distribuent des produits bio, distribuent des produits locaux, etc. Et en fait, on s'est rendu compte...
De services internet qui te livrent chez toi aussi, du circuit court,
exactement,
ultra court, ouais, ouais.
Et on s'est rendu compte qu'au restaurant, on n'avait pas toutes ces informations. Et de manière générale, on n'arrivait pas du tout à identifier les restaurants qui étaient engagés dans une démarche éco-responsable. Et on s'est dit, là, il y a un vrai besoin, en fait. Parce que moi, quand je mange au restaurant, évidemment, il y a un aspect plaisir qui est indéniable. Mais j'ai envie de savoir quand même ce que je mange et j'ai envie de savoir quel est l'impact de ce que je mange. Donc, on est vraiment parti sur la création d'un label avec un cahier des charges. On a été comparé au guide Michelin, en effet, parce qu'il y a trois niveaux. Un écotable, deux écotables, trois écotables, en fonction de l'impact environnemental du restaurant. Et à chaque fois, il y a des critères obligatoires qu'on vérifie sous facture. Ça, c'est l'origine. Ensuite, on s'est rendu compte que les restaurants avaient besoin d'être accompagnés dans leur démarche écologique. Donc, le deuxième pan d'écotable est apparu par la suite avec une société de conseil.
D'accord, parce que, en l'occurrence, quand tu leur annonces ce que tu veux faire, ça les intéresse, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. C'est ça l'idée de cette société de conseil ?
Ouais, alors t'as plusieurs types de restaurants, t'en as qui vont pas du tout savoir comment faire et t'en as qui savent faire, qui font déjà et qui ont besoin d'être juste accompagnés sur ces questions-là parce qu'ils ont pas le temps. Typiquement, ils ont déjà réfléchi un peu à adapter leur approvisionnement, mais en fait, ils ont pas le temps d'aller regarder autour de chez eux s'il y a des agriculteurs nouveaux, locaux, biologiques, etc. Et nous, on les aide sur ça.
Parce que en fait, tu dois avoir, c'est beaucoup plus de profils, mais si je voulais résumer à l'extrême, tu allais comme un peu sur le digital, ce que tu appelles les digital native vertical brands, donc tout ce que j'ai reçu sur mon podcast, Bergamote, Asphalt, etc. Donc ils sont des gens qui sont nés avec le digital, donc qui intrinsèquement dans leurs valeurs, dans leur modèle économique, ont le digital et sont faites par et pour le digital, si je dois comparer. Et puis, tu as les autres qui s'adaptent au digital. J'imagine que chez toi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as certains de tes restaurateurs, de tes partenaires, de tes clients qui nativement ont commencé il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais pas, 10 ans peut-être, en se disant on va être hyper responsable, on va faire bosser les restaurateurs les producteurs du coin, on va commander en circuit court, etc. Et puis t'as les potentiellement d'autres qui peuvent être plus gros, plus petits et qui se disent qui se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont et qui se disent on va changer, c'est ça?
Exactement, t'as vraiment les deux profils. T'en as qui se rendent compte et pour des raisons d'ailleurs économiques, qui se disent mais en fait si on fait pas ça maintenant, on va être trop largué. Et on se rend compte que les consommateurs ont envie de savoir aujourd'hui et ont envie quand même de manger dans des restaurants plus vertueux, rien que pour la santé en fait, parce qu'il y a eu tellement de scandales alimentaires que t'as pas envie de manger de la viande qui vient de je sais pas où, selon je sais pas quel élevage.
Du bœuf de Kobe quoi.
Et puis à l'inverse, t'as des gens ultra engagés depuis très longtemps qui ont fait cette démarche, qui l'ont réfléchi et qui sont contents de faire partie d'une communauté. Nous, on se décrit aussi comme une communauté de restauration durable. On fait des événements B2B, des événements B2C. Et ça leur apporte aussi un échange avec d'autres restaurateurs, avec des agriculteurs, des prestataires, par exemple des sociétés de valorisation des biodéchets, ce genre de choses, qui permettent d'améliorer leur démarche qui est déjà intrinsèque.
Une petite pensée pour maman, B2C, B-I-T-O-U, 2-S-I. Donc B2C, business to consumer, hein. c'est pas le... D'accord, et comment est né Écotable, je veux dire, l'embryon, ça sort d'où?
Je te dis, ça sort vraiment d'un besoin de consommer.
Non, mais quel jour, quel comment, tu te souviens du jour où tu t'es...
Ouais, je me souviens très bien. Ouais. Je revenais de voyage avec mon mari, en l'occurrence, en Amérique latine.
Simon, qu'on embrasse.
Simon, tout à fait. On rentre à Paris Et puis, c'est un voyage qui m'avait quand même fait beaucoup réfléchir. Et on va manger tous les deux dans un resto à Paris. On va bruncher, plus précisément. Et là, je regarde mon assiette et je suis un peu scandalisée, quoi. Je suis là, mais comment on peut en servir encore ça aujourd'hui ? Et en sortant du resto, je me dis, mais c'est hallucinant.
C'est-à-dire c'était des légumes pas de saison
Non, c'était t'avais le choix entre deux assiettes, soit que du poisson, mais qui était du poisson d'élevage dégueulasse, soit que de la viande. T'avais aucune information, t'avais aucun légume, t'avais rien. Et on s'est dit, en parlant avec Simon, je me dis, mais en fait, il faut essayer de créer quelque chose pour accompagner ces restaurateurs dans la transition écologique. Enfin, ça peut pas ne pas se faire aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que c'est né. Après, on s'est dit, bon, j'ai réfléchi, j'ai contacté d'abord mon amie d'enfance Camille, qui est devenue mon associée. Je savais qu'elle bossait dans une grosse boîte de conseil. Elle en avait un peu marre et elle me dit, moi, je te suis si tu fais quelque chose là-dessus. Et en plus, elle avait un profil ingénieur, donc c'était parfait. Et on s'est mis à lister les impacts environnementaux de la restauration et à créer un cahier des charges comme ça. Et puis après, à rencontrer les restaurateurs, etc. Quoi.
Et tu faisais quoi, toi, à ce moment-là ?
À ce moment-là, je revenais de voyage, donc j'avais, disons, du temps pour...
Mais c'était des vacances ou tu bossais où ? Tu faisais quoi ? Tu bossais dans quoi ?
Je bossais à l'université, en fait. J'étais en échange. Quand je suis partie en voyage, il y a eu une partie voyage, donc j'étais en vacances. Et il y a eu une partie boulot à l'université de Buenos Aires, où j'ai travaillé sur la dette souveraine.
D'accord.
Et donc, je reviens. Il y avait toutes les questions. Je continuais à bosser à l'université en parallèle. Mais j'avais plus de temps et je voulais faire autre chose, surtout. Et donc là, je me suis consacrée à ce projet pendant quelques mois.
D'accord. T'avais un chemin tout tracé ailleurs, j'imagine, quand même ou...
En tout cas, plus facile. J'avais passé le barreau, j'étais docteur en droit. C'est pas facile d'être recruté à l'université, mais il y avait le chemin universitaire et potentiellement le chemin d'avocate.
Et c'est quoi, du coup, ce chemin tout tracé pour un docteur en droit qui passe le barreau ? C'est une grosse firme américaine de... Je vois ta grimace là, mais...
Non, mais ça dépend En fait, quand t'as fait une thèse, normalement, ta vocation principale, c'est pas d'être avocate, c'est plutôt d'être professeur. Et donc, c'est d'être recruté, c'est de passer à ce qu'on appelle la qualification pour être maître de conférence, d'être recruté derrière en tant que maître de conférence, éventuellement de passer l'agrégation pour être professeur, et en parallèle d'être avocat. Mais c'est pas ton premier objectif d'être avocat, parce que t'as pas besoin d'une thèse pour être avocat.
Oui, mais j'imagine que la thèse, elle appuie certaines choses, soit des conférences, soit peut-être des litiges que tu peux gérer, justement, ou comment tu peux avoir de l'impact entre la Grèce, la communauté européenne, les États-Unis, j'en sais rien, le FMI.
Ouais, ça t'aide à monter plus vite dans un cabinet et à viser des cabinets plus gros, ça c'est
D'accord.
sûr.
Toi, c'était pas ton trip ?
Non, pas vraiment. Enfin, je l'ai tenté. Hein. J'ai été dans un cabinet. Puis au bout de quelques mois, ça m'a saoulé en fait.
D'accord.
Donc, pour dire les choses crûment. J'avais envie de faire quelque chose par moi-même déjà. J'avais pas envie d'être. J'avais pas tellement envie d'être avocate. Et j'ai envie de continuer à enseigner parce que c'est très différent l'enseignement et que ça laisse du temps. Mais j'ai pas suivi, disons, en effet, le profil type. Après un doctorat en droit.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez, du coup, une fois que vous avez fait ce cahier des charges, c'est quoi le trigger, ce petit moment où vous avez décidé, OK, on appuie sur le bouton et on lance Écotable ?
Ça a été un contexte, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le C40, qui est l'organisation qui réunit aujourd'hui à peu près d'une centaine de villes qui luttent contre le réchauffement climatique, qui a été créé par Bloomberg à New York, Anne Hidalgo, maire de Paris, avait la présidence du C40 et lance pour la première fois un projet qui s'appelle Women for Climate, où elle appelait la candidature de 10 femmes parisiennes qui avaient des projets entrepreneuriaux sur le réchauffement climatique à postuler. Et donc c'était exactement au même moment, je dis allons-y, on verra bien ce qui se passe.
L'alignement des planètes.
Exactement, et je suis prise. Et accompagnée du coup pendant un an sur le projet.
Ça veut dire quoi, prise ? C'est lauréate ? Comment ça se passe ? Tu postules et t'es...
Tu postules, t'es sélectionnée et ensuite t'es mentorée pendant un an pour soit lancer ton projet s'il n'est pas lancé, soit le développer davantage s'il est déjà lancé. Donc moi, il n'était pas lancé. Je suis du coup mentorée par Alexandra Palt, qui est la numéro 3 de L'Oréal, qui est...
Super.
je sais pas exactement quel est son poste, mais je crois qu'elle est directrice RSE.
Petit profil sympathique.
et directrice de la Fondation L'Oréal. Et donc,
on l'embrasse aussi. Hein.
C'était super parce que moi, j'avais pas du tout cet aspect business. Enfin, j'ai pas fait d'école de commerce. Un business plan, c'était extrêmement conceptuel pour moi.
Oui.
Donc, heureusement, il y avait mon associé Camille.
Autant la dette d'un État, ça va, mais la dette d'une petite TPE, c'est plus compliqué, quoi.
Bah, complètement. Heureusement, Camille à côté de moi.
Allé voir Jean-Marc à la BNP, tu lui as demandé un petit. Alors, écoute, Jean-Marc, j'ai un business plan. C'est 48 milliards.
Bah, clairement, au début, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis, bon, bah, Camille qui a fait l'école des mines à Paris. Et en plus, je crois le master entrepreneuriat était clairement d'une grande aide là-dessus. Et on a pu le confronter à ce que nous disait Alexandra sur cette question.
D'accord.
Donc, c'était parfait comme profil parce que ultra différent du mien. Et ça a donné tout de suite de la visibilité au projet, ce qui a été très intéressant parce qu'au début, lancer un label quand t'as pas de restaurant, c'est compliqué.
Oui, c'est ça. T'as juste un sticker à mettre sur la vitre, mais il n'y a pas de vitre pour la mettre. C'est
voilà,
ça,
en fait. Exactement.
Je sais pas si c'est comme ça que ça marche, mais t'as aussi ce petit truc que mettent tous les guides, etc. D'accord.
Il faut convaincre des restaurants alors que t'existes pas. T'as pas encore de site internet. T'as certes un cahier des charges, mais voilà.
Enfin, oui, sachant que t'es vraiment sur presque un business de plateforme, entre guillemets, dans le sens où t'es t'as de l'offre, de la demande. Toi, tu vas aller voir des restaurateurs pour leur dire si t'as mon macaron, mon écotable, eh bien tu auras du trafic, mais t'as pas de trafic en face parce qu'il te faut de l'offre pour créer du trafic.
Exactement.
Et vice versa. Donc voilà, comment tu fais alors du coup concrètement sur les premiers?
Bah, du coup, on ajoute un troisième associé, Rod Napol, qui est DA et qui est un ami d'enfance aussi. On lui dit, déjà, est-ce que tu peux nous faire notre site et notre logo, enfin notre image, et en échange, on te donne quelque part. Lui, il nous dit oui, mais en fait, moi, ça m'intéresse d'être plus impliqué que ça dans la société parce que j'y crois. Donc, on part à trois et on est en juin là, 2017 à ce moment-là. Et on se dit, OK, on va commencer à rencontrer des restaurants. On rencontre des restaurants, on leur parle, on voit si déjà ils sont intéressés par un label, tu vois. Tous ressortent comme étant intéressés par un label, mais en nous disant ça suffit pas. En nous disant ça suffit pas, le label, il y en a plusieurs. Il y en a pas dans la restauration, certes, mais il y en a quand même beaucoup pour les consommateurs.
Oui.
Et nous, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'être accompagnés. Et idéalement, on a besoin aussi d'être mis en contact, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec des agriculteurs, des prestataires, etc. Et donc, on se dit, OK, on va faire ça. On va faire un label et ce label, intrinsèquement, il accompagnera tout le monde. Donc, en fait, à chaque fois qu'on labellise quelqu'un, on fait une mini-prestation de conseil et on a créé à côté un réseau d'acteurs, donc des agriculteurs, des éleveurs, des sociétés de recyclage, etc. Et à chaque fois qu'on labellise, comme on a la tête dans les factures, on sait exactement ce qu'ils font. Et à chaque fois, on peut leur dire, où sont vos axes d'amélioration? On vous conseille de contacter telle ou telle personne pour vous aider. Et ensuite, nous, on vous offre de la visibilité.
Et alors, les fondamentaux, c'est quoi autour de ça? Parce que tu pourrais te dire, par exemple, alors, j'ai plein de remarques. Déjà, sur le fait de la scalabilité de tout ça, parce que c'est très compliqué de dire à quelqu'un, s'il est à Montpellier ou à Lille, les contacts, finalement, quand tu es dans une approche très industrielle, tu veux dire, les contacts, je les ai, j'ai quelqu'un, il livre toute la France, de toute façon, on s'en fout, c'est pareil, tu vois, c'est un peu l'idée.
Ouais.
Là, tu dois avoir des producteurs qui sont quand même dans un rayon de X kilomètres, j'imagine, enfin, tu dois quand même, donc à chaque fois, c'est des nouveaux, tu dois tisser un nouvel écosystème.
Ouais, alors les choses se font les unes après les autres. On s'est lancé donc à Paris d'abord, on s'est lancé avec 10 restaurants en janvier dernier. Il nous a fallu un an pour faire un business plan solide, pour faire un réseau solide. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, on s'est lancé en janvier avec 10 restaurants. Et en effet, il a fallu d'abord réfléchir à qui on va les mettre en contact. Et donc, on a démarché des agriculteurs, des éleveurs, des sociétés de recyclage, etc. On a une centaine à peu près d'agriculteurs aujourd'hui. Et en effet, à chaque fois qu'on se lance dans une autre ville, il faut refaire cette démarche. Après, c'est plus facile parce que les restaurateurs nous donnent déjà les contacts avec qui ils travaillent. Et puis, on travaille aussi avec des réseaux français. Parce qu'en fait, le circuit court, c'est très bien, mais en fait, ça a un impact carbone. Ça réduit l'impact carbone de manière assez faible. Ce qui est intéressant, c'est surtout de travailler avec des réseaux qui sont extrêmement bien outillés. Parce que je te donne un exemple, un circuit court qui est à 100 km de Paris, si l'agriculteur il est tout seul et qu'il fait son aller-retour avec son camion, bah, il a un impact carbone assez fort, alors que si tu as un gros camion qui va du sud de la France à Paris, mais qui fait plusieurs étapes stratégiques, bah, potentiellement le bilan carbone en fait, il est quasiment identique.
Et donc ça, on l'accepte ?
Ouais, complètement. Enfin,
je veux dire, c'est pas, non, mais c'est pas assez naturel. Souvent, sur une approche un peu marketing, greenwashing, j'en sais rien, écolo, tu vois, on va dire, ah bah oui, c'est un vrai plus de dire, mon producteur, il a à moins de 50 km, etc. On a du mal à accepter l'image du semi-remorque qui traverse.
Ouais, mais alors les restaurateurs l'acceptent parce qu'en fait, le direct producteur pour un restaurateur, c'est quasiment impossible. Il faut dire ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a de telles quantités, de tels volumes, que bah, il va pouvoir avoir un partenariat direct producteur sur un produit type la céréale, type l'huile d'olive, etc., parce que ça se conserve. Mais sur le fruit et légumes, le partenariat direct producteur, il va être extrêmement compliqué. Donc, en fait, les réseaux, c'est ce qui intéresse le plus le restaurateur, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, après, tu peux avoir des réseaux qui sont en circuit court, et ça, c'est hyper intéressant. Mais travailler seulement avec 1, 2, 3 producteurs, à part les quelques restaurants type Septime qui ont les moyens de le faire, qui font un prix qui est en conséquence, la plupart ne peuvent pas.
Ouais, parce que du coup, c'est vrai que mes autres questions que j'avais qui se chamboulaient, on l'a compris dans ma tête tout à l'heure, étaient en effet le fait que parfois, j'imagine qu'il faut aussi faire des choix dans cet univers, des concessions. J'allais prendre l'exemple, mais du coup, qui est plus bon, il doit y en avoir d'autres, mais de se dire, en fait, peut-être que par moment, il faut plutôt un producteur qui n'est pas complètement bio, mais qui est tout prêt, parce qu'il est, voilà, il est quand même responsable sur plein de choses, etc., qui n'a pas forcément le label, plutôt que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Après, tout va dépendre du type d'agriculture. C'est-à-dire que nous, dans notre réseau, on a des gens qui ne sont pas labellisés bio, mais on sait comment ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils veulent en général ne pas être labellisés pour des raisons limite de conviction, mais ils travaillent comme en bio. Après, si tu compares quelqu'un de local en conventionnel à quelqu'un, par exemple, du sud de la France en non conventionnel, le sud de la France en bio, l'agriculteur du sud de la France en bio aura un impact carbone plus faible que l'agriculteur local en conventionnel. Parce
local
que...
dans le Nord, tu veux dire ? Enfin, autour de Paris.
Autour de Paris. Oui. Pour une raison simple qui est que en fait, l'impact carbone de notre agriculture, c'est essentiellement les engrais azotés. Donc, c'est en fait les engrais qu'on met dans le sol issus de la pétrochimie. Mmh. Et ça, bah, c'est interdit en bio.
D'accord.
Donc, ton agriculteur conventionnel aura un impact carbone toujours bien plus élevé qu'un agriculteur bio. Après, en effet, là où ça n'a pas de sens, c'est si tu vas chercher du bio en Afrique du Sud, en Amérique latine, etc. Là, en effet, l'impact carbone lié au transport est bien trop élevé, puis ça n'a plus de sens en termes économiques aussi de ne pas travailler avec juste son terroir et les gens autour de soi.
Et donc, sur quoi sont basés les 3 niveaux décotables, justement ? Est-ce que si tu n'es pas labellisé bio, par exemple, tu peux quand même... Enfin, si tu bosses avec des gens qui ne sont pas labellisés bio, tu peux quand même avoir 3 écotables ?
Alors, nous, on a un pourcentage, en fait, à respecter en fonction des niveaux. Donc, le premier niveau, il faut 15% de produits bio ou en direct producteur, sachant que ces directs producteurs doivent être dans une agriculture raisonnée tout de même. Mmh. Et ensuite, on passe à 30% pour le deuxième niveau et 50% pour le troisième niveau. Donc, si c'est une obligation d'être dans une démarche, justement, d'agriculture responsable.
Ok. Et alors les autres critères, il y a des critères, je sais pas, de salaire, d'employés, de. Est-ce que
on s'est pas mis sur les critères sociaux. C'est une vraie question sur peut-être plus tard l'adaptation de notre cahier des charges. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour la restauration quand même de sortir la tête de l'eau de manière générale. Mmh. Et pour nous, ça aurait été compliqué de vérifier cela. Donc, on est vraiment resté sur l'aspect environnemental et santé. Et bah, les autres critères, c'est le gaspillage alimentaire, comme tu en as parlé tout à l'heure. C'est les déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets organiques ? Est-ce qu'on les transforme en électricité, en biogaz, etc. Ça va être les consommables, qui est une énorme question pour le restaurateur. Donc, l'utilisation de plastique sur la vente à emporter.
Oui.
Ça va être aussi la pêche. Quel type de pêche ? Pêche durable, etc. Voilà, nous, on a tout listé et à chaque fois, tu as des critères obligatoires selon les niveaux.
Ok. C'est quoi votre modèle économique, du coup ?
Notre modèle économique, il est double, c'est-à-dire que c'est une adhésion. Quand tu vas être labellisé, tu adhères de manière annuelle à Écotable et tu payes une adhésion annuelle.
Combien ?
C'est en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc c'est en fonction du ticket moyen du restaurant et du nombre de couverts moyens. Ça va en gros de la moyenne est de 500 euros par an et ça va jusqu'à 1000 euros par an. Donc c'est pas grand chose pour le restaurant, mais ça peut être significatif pour un restaurant. L'autre business model, c'est le conseil.
D'accord.
Et ça, le conseil, il s'adresse pas seulement aux restaurateurs, il s'adresse aussi aux cantines scolaires, il s'adresse aussi aux cantines d'entreprise. Puisque si on veut avoir un impact en matière écologique, la cantine, c'est essentiel.
Vous avez eu des contacts avec des ministères, je crois ?
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Je ne sais pas si je peux en parler de manière complètement
libre. Mais oui, on est entre nous.
c'est marrant parce que dans le milieu politique, une fois qu'il y en a un qui fait quelque chose, tous les autres se disent « Ouh là là, moi aussi, il faut que je fasse ». Et donc, en effet, on avait été contactés par Matignon pour leur cantine.
D'accord.
Il y avait quelqu'un de super à Matignon qui voulait vraiment faire labelliser la cantine et améliorer la qualité et environnementale et sanitaire de la cantine. Et puis en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un changement d'équipe au dernier moment, mais ça nous a permis d'entrer aussi dans d'autres administrations ensuite par derrière.
Mais oui, en effet, je pense que tu parles de cantine, mais sur le B2B, il y a plein de choses à faire. Je veux dire, j'ai reçu ici Loïc Soubéron, le fondateur de Luncher, par exemple. Je suis sûr qu'il y aurait des mises en avant à faire de certains restaurants ou de certaines, pour être certain qu'on puisse avoir des démarches plus responsables en entreprise aussi. Je pense que ce serait intéressant.
Complètement. Je pense qu'il faut travailler et avec les gros groupes type Sodexo, etc. Et aussi, je prends l'exemple de L'Oréal. L'Oréal est quand même une entreprise qui essaye de s'engager sur ces questions-là. Sur leur cantine, ils ont encore du mal aujourd'hui à passer le cap. C'est typiquement la société que l'on accompagne pour avoir une cantine plus vertueuse.
Et pour rester sur le modèle économique, vous avez combien de clients à peu près de restaurants aujourd'hui ?
Donc on s'est lancé en janvier 2019 donc avec 10 restaurants. Aujourd'hui, on a une soixantaine et notre objectif, c'est d'en avoir une centaine d'ici la fin de l'année.
D'accord. Donc 100, ça ferait moyenne entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires pour la première année. Et l'idée après, sur juste cette partie-là, hors conseil, et l'idée après, c'est quoi ? C'est d'en avoir 1000 ou...
Ouais, alors bon, on est en réflexion avec des partenariats importants en termes de référencement de restaurants.
McDonald's. Enfin, oups, j'avais pas le droit de le dire. Non, tu ferais McDonald's ou pas ? Si. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que théoriquement, c'est possible ?
Théoriquement, toute personne qui remplit le cahier des charges peut être labellisée. Nous, c'est peut-être une critique qu'on peut nous faire, mais on n'étudie pas le goût. Après, on est persuadé que aller dans un de nos restaurants, c'est toujours bon. Quand tu as cette démarche de manière aussi approfondie, en fait, tu fais de la bonne cuisine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se place vraiment comme un contre-guide gastronomique. Et un de nos concurrents, c'est aussi les guides gastronomiques. C'est de dire, vous n'avez pas réussi. Vous ne vous penchez pas tellement sur cette question. Vous ne référencez pas les restaurants qui sont engagés. Nous, on pense que le consommateur de demain, il va s'intéresser à cette question. Et quand il va choisir un restaurant, il va regarder ça.
Sachant qu'un restaurant très, très, très haut de gamme, est-ce qu'il n'est pas... obligatoire, en tout cas dans la culture collective, dans l'imaginaire. Qui balance tout, plein de trucs, qui jette plein de choses parce que je garde que le cœur.
Je croyais que t'allais dire le contraire.
Que le cœur de là. Ben non, mais je garde que le méga cœur de la laitue, oui. Puis tout le reste, je le jette. Le petit bout du poisson qui est bon, c'est celui-là, le reste, j'en veux pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas un peu ce côté finalement. Pour l'excellence, je suis obligé de jeter tout ce qui n'est pas bon.
En fait, complètement, il y a et le fait que le restaurant 3 étoiles, en tout cas dans l'imaginaire, en effet, va avoir une quantité de déchets astronomiques, et en même temps que comme il a un niveau de prix assez élevé, il va pouvoir travailler en direct producteur avec les meilleurs produits français. Donc il y a un peu ce dilemme dans l'imaginaire des gens, d'un côté, il est forcément responsable, il est étoilé, il fait hyper attention à ses produits, mais en fait, en termes de déchets, c'est énorme. Pourquoi tu me disais ça ?
Je sais pas, parce que j'ai passé de McDonald's aux 3 étoiles, mais alors pourquoi
c'est McDonald's ? Pour le McDonald's, en l'occurrence, un de nos premiers critères de niveau 1, c'est du fait maison. Donc une chaîne de fast-food ne pourrait pas rentrer aujourd'hui dans Equitable.
Alors qu'est-ce qu'ils font maison dans McDonald's ? J'en ai aucune idée en fait.
Ils utilisent énormément de produits industriels, ouais. Donc ça ne rentrerait pas, ouais. Et la plupart des produits sont congelés.
Il faudrait une énorme transformation du McDonald's pour rentrer dans le label Equitable.
Clairement. Après, nous, on peut, là où par contre... On
peut accompagner Equitable, voilà, dans cette transformation. Non, McDonald's, d'accord. Écoutez,
on peut les accompagner. Après, sincèrement, c'est pas, je ne crois pas que ce serait stratégiquement intéressant non plus pour McDonald's d'être enfin labellisé sur une plateforme, je sais pas, mais c'est pas.
Non, non, il serait intéressant. Je pense que enfin c'est quand même un des critères historiques de McDonald's de dire que quand ils arrivent dans une région, ils font bosser, bah ils ouais. créent 80, 100, une centaine d'emplois, ils font bosser les producteurs du coin sur la salade, le bœuf, enfin je ne sais quoi. C'est quand même une sorte de. Donc est-ce que tu pourrais le pousser à l'extrême en te disant dans une sorte de prise de conscience incroyable, on va devenir écotable de trois niveaux, non?
En fait, ce qui serait intéressant déjà, c'est pour nous, en tout cas, de vérifier ce qu'ils disent. Mmh. C'est que je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se disent que McDonald's fait du greenwashing. Moi, j'en sais rien à l'heure actuelle. Quand ils font en effet une certaine publicité en disant on utilise des produits locaux, on fait travailler des agriculteurs français, etc. Ce serait intéressant qu'ils nous ouvrent leurs factures, voir si c'est vrai. Et dans ce cas-là, ils pourraient en effet communiquer dessus. Et puis en effet de les accompagner après d'être labellisés pour que les consommateurs choisissent des restaurants engagés. J'y crois pas trop.
En effet. Donc du coup, l'autre partie de votre modèle, c'est donc le conseil.
Ouais.
Là, tu factures quoi, jour homme traditionnel. Classique. Tu donnes j'estime ça va vous coûter quoi, 2 000 euros, 3 000 euros, et puis.
Ouais. Ce qu'on fait beaucoup, c'est des ouvertures de restaurants.
Ouais.
C'est-à-dire que bah t'as de plus en plus quand même de restaurateurs. Je disais au début, la restauration a peu fait sa transition écologique. En pourcentage, c'est clair, mais tu te rends compte que les nouveaux restaurateurs sont vraiment beaucoup plus sensibilisés et se posent cette question. Et donc souvent. Ont envie d'avoir cette volonté sans vraiment savoir comment s'y prendre.
Mmh.
Donc nous, on accompagne vraiment à l'ouverture du restaurant et voir aussi, on accompagne sur les appels d'offres. Il y a des restaurateurs qui veulent des lieux particuliers sur la plage, un rooftop à Paris, etc., qui ont besoin de remplir un cahier des charges parce que la mairie pose des critères environnementaux et nous, du coup, on accompagne dans cet appel d'offres.
Et ça peut pas être conflicté à un moment ? C'est-à-dire, je t'accompagne et puis bon, si je t'accompagne, t'as 3 étoiles, quoi ?
Bah...
La sale question.
c'est sûr qu'on les accompagne dans le but... Enfin, leur objectif, c'est d'être labellisés derrière, ouais. On va pas se mentir.
Ils peuvent être accompagnés par d'autres.
Ils peuvent complètement être accompagnés par d'autres. Et en toute hypothèse, la labellisation ne se fait pas par les mêmes personnes qui conseillent.
Sachant que quand même, contrairement, je tape pas du tout, je compare, hein, le guide Michelin étant une référence,
ouais.
Mais contrairement au guide Michelin où il y a un aspect totalement, même s'il y a un cahier des charges et des choses à respecter, très subjectif sur plein de choses,
ouais,
le goût notamment,
il y a
très peu de subjectivité dans ce que tu fais en fait, c'est que tu parlais de factures, de choses comme ça,
ah,
c'est
oui.
très objectif, non ?
C'est extrêmement objectif, la seule subjectivité qu'on va avoir, c'est que comme on se place un peu comme un contre-guide gastronomique, à chaque fois qu'un restaurant est labellisé, on fait venir photographe professionnel et journaliste gastronomique sur place. Et le but, c'est de donner envie aux gens d'aller manger dans ces restaurants. Donc là, tu vas avoir la subjectivité du journaliste gastronomique qui va te décrire le plat et le goût du plat. C'est la seule subjectivité qui existe.
D'accord. Je réfléchis juste parce que tu pourrais quand même, en étant très objectif, dire que tu as 3 écotables. Mais en fait, avoir une bouffe dégueulasse, quoi.
Techniquement, c'est possible. Mais sincèrement, moi, j'y crois pas. Enfin, c'est un cas d'école. Ce serait un cas d'école. La question se poserait de ce qu'on ferait. C'est un cas d'école parce qu'encore une fois, quand tu respectes ces critères, c'est que t'es vraiment ultra impliqué
non,
dans
mais
ton
après,
métier.
Tu peux te dire que c'est pas ton rôle. Je veux dire, tu peux dire que toi, ton rôle, c'est d'avoir un certain nombre de critères qui sont d'autres, et puis tu laisses à Michelin, la fourchette ou je sais pas qui, dire est-ce que tu as un bon service, est-ce que les gens sont sympas, est-ce que les horaires sont bien, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est dans les temps, est-ce que voilà.
Finalement. Oui, ça on est convaincu que c'est pas notre rôle. Et c'est une des raisons vraiment pour lesquelles on fait pas, c'est qu'en plus on n'a pas la compétence, on n'est pas du tout des critiques culinaires. Mais en plus vraiment on est persuadé que on ne référence aucun restaurant mauvais. Après là où et moi je trouve que c'est en tout cas c'est ce que je défends, c'est qu'on défend on référence des restaurants ultra différents. Donc on va référencer de la cantine par exemple. De la cantine où tu vas manger le midi, et on va aller jusqu'au restaurant gastronomique, restaurant étoilé, bistronomique, etc. Et donc, tu as une ultra large palette en fonction de ce que tu cherches.
Mais c'est ça, mais je l'imagine que l'idée, c'est plus de se dire, sans être en concurrence justement avec un Michelin, c'est de te dire, j'ai 3 écotables et 3 étoiles. Quoi. Et là, t'es on the top of the world. Quoi.
Ouais, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le Michelin nous a tout de suite contactés quand on s'est lancé en nous disant, bon. C'est intéressant ce que vous faites, on va regarder. Nous, c'est vrai que on n'étudie pas cette question et on se rend compte qu'il faut l'étudier. On ne sait pas trop comment le faire parce que les guides gastronomiques sont très peu rentables de manière générale. Donc, ils ont du mal à savoir comment faire évoluer leur modèle économique et aussi comment du coup analyser cette question environnementale qui demande quand même un audit du restaurant quoi. Sauf si...
Ça se trouve, ils mettront en avant sur leur guide le nombre d'écotables, c'est possible.
Pourquoi pas.
Peut-être qu'un jour, tu auras un... Je te le souhaite pas, mais... Un chef qui déprimera parce qu'il aura perdu une écotable.
Mais comme tu dis, comme c'est objectif, il n'y a pas de raison qu'il le perde si, sans le savoir.
Sans le savoir. C'est que ce sera volontaire de sa part d'avoir choisi de changer de...
Bah, c'est qu'il a perdu le contrôle de son restaurant, ce qui peut arriver. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils travaillent tellement les restaurateurs qu'ils déchargent beaucoup, qu'ils délèguent beaucoup et qu'ils ne se rendent pas compte. Et c'est en ça que l'analyse des factures, c'est souvent intéressant. Hein. Mmh. C'est qu'on revient vers eux en disant « Mais attendez, là, vos oignons, ils viennent d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils disent « Ah bon ? Mais je savais pas. Juste, bah, en fait, ils sont perdus. Enfin, c'est plus eux qui font les. C'est plus eux qui font les commandes, en fait.
Ouais,
donc, ils ont perdu le contrôle sur certaines questions.
C'était qui ton premier restaurant ? Qu'on le cite, hein, quand même.
Parce... Ouais, c'est Tana, dans le 11e, avenue Parmentier. Un super resto bistronomique.
D'accord.
Métro Goncourt. Pour une raison tout simple qui est que. Bah, au début, je t'ai dit, j'ai cherché à me dire bah, quels sont les restaurants qui sont les plus engagés, pour, que je connais, avec qui je vais pouvoir confronter mon modèle et aussi tester mon audit, parce qu'il fallait absolument qu'on teste notre audit pour savoir si ça fonctionnait.
Et d'ailleurs, il ne fonctionnait pas complètement et il a fallu que tu le réaménages, j'imagine, non ?
Bah, certains critères, on s'est rendu compte qu'il y avait des critères qu'on ne pouvait pas contrôler par facture, oui, complètement, et eux aussi.
Donc là où je veux en venir, c'est qu'on est souvent dans cette dynamique dans les startups. Tu as un côté startup dans le sens propre du terme, mais pas forcément hyper techno pour l'instant, etc. Mais le fake it until you make it, tu arrives avec quelque chose et puis tu es itératif, donc tu confrontes à la réalité du terrain, quoi, j'imagine.
Complètement, complètement. Ouais. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a donné l'idée de faire un réseau de producteurs pour l'aider, etc. C'est lui qui nous a tout de suite dit, mais moi je signe tout de suite, mais accompagnez-moi, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Et bref, en fait...
T'avais décidé de lancer Écotable à ce moment-là ?
Non, justement. À ce moment-là, je me suis dit, on va voir si ça marche. Enfin, on va voir s'il y a, y a un intérêt de la part des restaurateurs. Ouais. Parce que on se doutait qu'il y avait une impétence de la part des consommateurs. Enfin, on s'en doute. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, mais de la part des restaurateurs, on n'en était pas sûr. Donc, on voulait vraiment confronter ce qu'on avait imaginé.
Ce que tu vois, j'ai reçu Pierre-Edouard Sterrin récemment sur ce podcast, qui a monté Smartbox notamment, et il dit dans cet épisode que pendant un an, il a testé 20 idées. Mais on est vraiment là dans le test, en fait. T'as quelque chose. Si tu t'avais vu qu'il y avait zéro appétence pour le projet que tu avais, tu serais peut-être allé en voir un deuxième, un troisième, puis après tu abandonnes. Mais c'est d'où l'importance de faire. C'est
complètement. Et puis on nous a, pendant cette année de test, là, où on a cherché des agriculteurs, des restaurateurs, etc., il y a plein de gens qui nous ont dit, mais vous n'y arriverez pas, ce ne sera jamais rentable. Enfin, les guides gastronomiques ne le sont pas, vous ne le serez pas de plus, les restaurateurs ne vont pas vouloir payer, ils n'ont pas d'argent, etc.
Ils avaient tort.
Bah, nous, on pense qu'ils ont tort, ouais, parce qu'en fait, on pense que les restaurateurs ont certes des difficultés financières, mais ils sont aussi confrontés à des enjeux environnementaux aujourd'hui où ils ont envie de les adresser. Et donc, on pense qu'ils ont tort. Après, on vient de se lancer. Hein, c'est difficile de dire si dans la durée, ça...
Et c'est quoi le... Parce que tu le sais, sur Génération Do It Yourself, je reçois, je vais pas bouffer les mots, sur Génération Do It Yourself, je reçois pas mal de profils très différents de l'entrepreneur qui pèse 5 milliards, qui s'est scalé à mort, comme on dit, voilà, etc. Toi, finalement, intrinsèquement dans Écotable, t'as pas une vocation à... alors déjà, j'imagine, sans parler politique, mais hyper... capitaliste, t'as quand même une notion de valeur et puis comme ça, je dis pas que les capitalistes sont pas de valeur d'ailleurs, c'est loin de penser ça, mais qui sont probablement différentes, mais toi tu peux pas aller dans cette course effrénée à la croissance, au développement, c'est pas le purpose d'Écotable ici.
Bah complètement en fait, et ça a été une question même de crédibilité au début, c'est qu'on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on est une société, est-ce qu'on va être une association? Qu'est-ce qui va nous rendre le plus crédible? Et puis, on s'est dit, en fait, il y a une nouvelle société qui a été créée, qui s'appelle la société agréée ESUS, Économie sociale et solidaire, où en plus d'avoir, évidemment, qu'on a un objectif profitable comme toute société qui a envie de grandir, etc., et d'embaucher, mais en plus, tu poursuis un objet social, environnemental, etc. Donc, nous, on s'est inscrits tout de suite là-dedans.
Ça s'appelle ?
C'est ESUS.
ESUS.
Un agrément ESUS, ça te permet d'avoir des subventions, en fait, de manière...
C'est ESN, il me semblait.
ESS, économie sociale et solidaire. Et l'agrément ESUS permet de te qualifier d'économie sociale et solidaire. Et c'est marrant parce que les avocats qu'on a vus nous ont dit « Mais attendez, c'est du bullshit, ça sert à rien, etc. » Parce qu'ils ne sont pas habitués à accompagner des sociétés de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est dit « Mais si, en fait, on le fait parce que c'est dans nos valeurs qu'on pense qu'en plus, ça nous rendra crédibles. Et puis, en plus, ça va nous permettre derrière d'avoir des subventions intéressantes. » Donc, on l'a fait. Et en plus, on a créé une association en plus. Donc, on a tout fait.
D'accord.
L'association permettant... donc, aujourd'hui, tu as deux entités chez Ecotable. Tu as Ecotable SAS, qui est le label et le conseil, ce dont on parle depuis le début. Et tu as la communauté Ecotable, qui est une association, loi 1901, et qui fait de la sensibilisation grand public à l'alimentation durable et qui fait des événements. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie volonté des restaurateurs de participer de plus en plus à cette communauté, qu'on n'avait pas vraiment de structure, parce que dans une société qui était quand même limitée, tu ne peux pas vraiment avoir de bénévoles, etc. Mmh. Et qu'il y avait quand même une espèce de mouvement, tu vois, pour cette restauration durable. Donc, on a créé cette entité
Et puis, tu as intérêt à ce que ce mouvement, tu as intérêt à l'accompagner même de près, mais...
Complètement,
aussi,
en fait, ouais. On a reçu de plus en plus de messages de consommateurs qui nous ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement ? Nous, ça nous paraît hyper important, etc. » Et donc, on s'est dit « Bah, ok, il faut créer une association pour pouvoir intégrer tout ce monde et faire des choses ensemble. »
Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que tu bosses sur ce projet, ouais. Au total. On voit que tu as quand même structuré pas mal de choses aujourd'hui. Vous êtes toujours 3 associés.
On est toujours 3 associés.
D'accord. Vous avez c'est quoi la répartition, à peu près ?
60% pour moi, 40% pour Camille, un peu moins 35% et 5% pour...
D'accord. Et tu vois où vous voulez aller exactement, ou vous êtes encore sur ces phases itératives de... Enfin, si je sais pas, tu te vois Ecotable International, ou c'est un...
Ouais, on croit vachement que c'est en tout cas reproductible un peu partout.
Ouais.
Là, pour l'instant, notre objectif, c'est quand même de quadriller plutôt le territoire français à fond. Donc aujourd'hui, on était lancé donc à Paris en janvier. Depuis août, on est dans toute la France. Donc on labellise partout en France sans aucune difficulté.
Il faut te déplacer à chaque fois ?
Non.
D'accord.
On fait à distance et ensuite on travaille avec des réseaux. Voilà, la labellisation, elle se fait sur facture. En revanche, sur place, via un photographe et un journaliste gastronomique qui peut travailler par téléphone, mais le photographe vient toujours sur place.
D'accord.
Voilà. Et
donc, bon, tu parles de 100 à la fin de l'année, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Et l'année 2, c'est 500 ou c'est... Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de ce qu'appellent les investisseurs hockeystiques, la courbe.
Complètement. C'est, ouais. En fait, juste pour donner un chiffre, il y a 18 000 restaurants à Paris, c'est énorme. Alors, des restaurants engagés, on estime qu'en France, il y en a 5%, mais rien que 5% en France, en fait, c'est des milliers de restaurants. Donc, notre objectif, c'est évidemment d'être exponentiel en termes de labellisation et de conseils aussi, mais de concentrer le conseil plutôt sur les gros acteurs.
Et du côté restaurateur, tu crois que ça aura un impact sur leur... Enfin, à quel point c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que tu peux déjà démontrer que... Grâce à Ecotable, certains de tes restaurateurs, peut-être pas encore, c'est peut-être trop tôt, mais ont des gens qui viennent réellement, qui ont compris le message.
Alors, on essaye de développer des outils là, pour essayer de calculer ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois, c'était entre guillemets des success stories, dans le sens où à chaque fois qu'ils sont labellisés, ils mettent en place de nouvelles actions et sont de plus en plus vertueux. Le fait d'avoir 3 niveaux fait que ça les pousse vers le haut, qu'ils veulent passer à 2 Ecotables, à 3 Ecotables. Et ça marche très bien.
Ça déjà, c'est, pour toi, c'est quand même quelque chose de
hyper satisfaisant.
Énorme.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais après, en nombre de personnes que ça leur fait venir dans leur restaurant, ça, on ne sait pas le calculer aujourd'hui. On essaye de développer des outils, mais on ne sait pas le calculer.
Déjà, ce qui est important pour ceux qui écoutent, c'est de dire... Enfin, si jamais vous le faites, c'est de le dire. Parce que je le vois, moi, en toute modestie sur ce podcast, quand j'ai des gens qui disent à d'autres personnes, des auditeurs, j'ai découvert ça sur Génération Do It Yourself, l'impact, il est important, généralement. Alors, si là, en plus, vous dites, j'ai eu ça sur Génération Do It Yourself, Ecotable, qui m'a emmené sur votre restaurant, c'est double. Non, restez sur Ecotable, plus sérieusement. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Je veux dire, dire quand de bien le mentionner au restaurateur, je pense.
Mais ça, on remarque que les consommateurs, les clients ont tendance à le faire.
Alors du coup, comment tu fais? Tu vas sur ecotable.fr?
Ouais, tu peux te géolocaliser. Tu vois les restaurants autour de toi et tu peux les choisir, tu peux les trier. Un écotable, deux écotables, trois écotables. On a aussi des badges si par exemple la personne est végétarienne, si elle veut manger locavore, si elle veut manger zéro déchet, j'en sais rien. Enfin,
locavore.
Voilà. Locavore, si elle veut manger local.
D'accord.
Donc tu peux pouvoir comme ça choisir
les restaurants. Aussi ou pas?
Il y a des flexitariens, tout à fait. On a un badge flexitarien pour ceux qui font attention à la viande.
D'accord, très bien, j'adore ces nouveaux termes, c'est pour ça que locavore, flexitarien, super. Très bien, bah, écoute, c'est assez chouette. Et alors, sur le grill d'écotable, donc en gros, si ce que tu as dit tout à l'heure en intro, puisque j'ai pas encore eu la chance, même si on a échangé un peu avant sur ce podcast, d'en entendre, d'en écouter, l'idée, ce que tu racontes aussi un peu depuis le début de cette conversation, c'est que t'es quand même en découverte encore de plein de choses. C'est ce qui est intéressant, tu défriches un nouvel univers et c'est un peu l'objectif avec ce podcast, c'est de continuer à défricher pour être meilleur.
En fait, il y a assez peu de vérité absolue en matière d'alimentation et d'agriculture de manière générale, que tu vois par exemple sur les circuits courts, tout le monde se dit bah, c'est forcément vertueux, pas forcément, en fait, ça dépend vraiment du circuit court, de quoi on parle, etc. Pareil avec l'agriculture raisonnée, qu'est-ce que ça veut dire, etc.
Les pesticides donnent le cancer du sein, tout ça.
Il y a énormément d'imaginaires liés à l'alimentation et à l'eau. Enfin, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu enregistrer un podcast sur l'eau du robinet.
Ouais.
Si, je ne sais pas si tu te rappelles, cet été, il y a eu toute une psychose sur le fait qu'il y avait des déchets nucléaires dans l'eau de Paris.
D'accord, non.
Tu vois pas, il y a eu une
infirmière. Moi, je suis tellement un fan absolu de l'eau du robinet que du coup, j'ai toutes ces choses-là, c'est des fake news, tu vois. Donald Trump.
Il y a carrément une infirmière de Necker, je crois, qui a posté sur Twitter disant qu'il fallait plus boire de l'eau du robinet parce qu'elle était contaminée et ça a eu un impact, mais fou, quoi, sur la toile. Et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment essayer d'interroger quelqu'un qui travaille concrètement chez Eau de Paris, là, qui me dise un peu ce qu'il en est.
Trop bien.
Et donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif, de décrypter certaines questions. Il y a à chaque fois un seul expert, donc l'objectif, c'est pas de dire, on va vous dire tout le vrai du faux, c'est on va vous donner un point de vue qui vous permettra de vous faire votre propre réflexion sur la question.
Ok, sur le grill d'écotable, sur les bonnes... Je vais pas réécorcher, je vais recommencer encore. Sur le grill d'écotable, on dit le grill ou le grill? Le grill.
Le grill, je pense.
Décotable. donc sur toutes les bonnes plateformes de podcast, normalement à partir de mercredi.
Ouais, avec un premier épisode sur les circuits courts, sont-ils vraiment vertueux, justement.
D'accord. Qu'on vous invite à partager, abonner, voter, tout ça, comme d'habitude. Top. Eh bien, écoute.
Il y a aussi un premier événement grand public décotable.
Ouais.
Donc je peux faire un peu ma promo.
Ah bah vas-y, on est là pour ça.
On fait ça à Grande Contrôle, qui est un lieu à Paris, dans le 12e arrondissement. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais en gros, c'est la SNCF qui a mis à disposition ses anciens hangars. Et on fait donc notre premier événement sur l'alimentation durable de manière générale, où il y aura des conférences un peu façon TEDx, il y aura un grand banquet, il y aura des ateliers de cuisine, de jardinage, etc. Donc, il faut venir. Ça va être chouette.
Pour revenir, parce que... C'est quand, pardon, t'as dit parce
30 novembre.
30 novembre, donc voilà, on est en 2019. Pour ceux qui écoutent plus tard, bah, tant pis pour vous, vous l'aurez loupé. Mais il y en aura un autre probablement en 2020. Mais donc regardez la date sur ecotable.fr. Voilà.
Et sur les réseaux sociaux.
Puisqu'on est sur cet échange très early stage, parce que c'est encore le début, et que toi, en plus, tu venais vraiment d'un univers différent, tu le disais, hein, plus académique... C'est quoi tes gros apprentissages depuis que tu te lances dans le business? Enfin, y a des trucs sur lesquels tu as pris des grosses claques ou des...
Ouais, tous les jours, j'en prends. Mais en même temps, tous les jours, j'apprends aussi. Mmh. C'est difficile d'en choisir que quelques-unes, mais on va dire sur le démarchage, c'est que quand on a... Moi, j'étais pas habituée à vendre quelque chose... et à me prendre parfois des vents sur ce que je vends. Ça a été un gros apprentissage d'apprendre à comment vendre, à apprendre à ravaler sa fierté quand on nous dit que c'est de la merde.
Ouais.
Parce que, voilà...
J'ai pas que ça à faire, quoi.
Ouais,
je suis restaurateur, tu vois, attends, je suis en train de faire cuire
exactement.
Mes patates.
Je travaille assez, là. Tu vas pas me demander en plus de montrer mes factures, quoi. Mm. Mais, Donc ça, je pense que ça a été ça le plus gros apprentissage. Et puis après, de structurer l'activité concrètement.
Mais comment tu le fais ça alors dans le dur ? Parce que c'est ça en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a, on a peu parlé de très opérationnel, mais t'appelles tous les jours 40 restos au téléphone ?
Alors
200.
En fait, on a eu de la chance qui est que bah, ça a été dur avant le lancement.
Tous les gens qui viennent ici, ils ont de la chance. Ça me fait bien marrer, mais bon, ouais, ouais, vas-y.
Avant le lancement, on a un peu galéré. On va pas se mentir, parce que c'était hyper difficile de convaincre des restaurants alors qu'on n'était pas lancé. Mais une fois qu'on a été lancé, on est arrivé après les marches pour le climat, après la démission de Nicolas Hulot, il y avait un vrai, disons, un vrai mouvement du côté grand public. Et donc, la presse a énormément parlé de nous. Et le fait que la presse ait énormément parlé de nous, notamment la télé, a fait qu'on n'a pas eu besoin de démarcher. Donc, aujourd'hui, on ne démarche pas. Après, on va le faire, je pense, de manière générale, mais on le voit.
C'est-à-dire
plus.
C'est-à-dire que tu as des gens, ça tombe, quoi. Ça tombe du ciel, les gens viennent, te demandent le label et tu le labellises et tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde. C'est presque ça ?
Alors, ça a été presque ça pendant un temps. Là, aujourd'hui, on répond à tout le monde, hein, clairement. Mmh. Ça prend plus ou moins de temps en fonction aussi de la réactivité du restaurateur. Mais aujourd'hui, en effet, on ne démarche pas. Là où on va être tenté de démarcher, c'est aussi pour avoir des figures de la restauration. Ce qu'on n'a aujourd'hui pas assez, parce que bah, les labellisés ne sont pas notre cible actuelle. Mmh. Mais nous, ça nous intéresserait d'avoir justement des restaurateurs qui sont connus, qui sont engagés, qui sont influenceurs et de les labelliser.
D'accord, ouais, évidemment, parce que ils peuvent tirer vers le haut, notamment aussi pour prouver certaines choses par rapport au goût et par rapport à tout ce qu'on disait, parce que tu peux faire pas que du bien, mais
et
aussi
c'est
du
ce
bon.
C'est ce qu'on veut prouver le 30 novembre aussi, c'est en faisant ce banquet, il y aura 6 chefs différents qui sont des chefs issus de types de restauration très différentes, avec à la fois de la restauration gastronomique, à la fois de la restauration plus quotidienne, etc. Et on veut prouver aux gens, mais en fait... Parce qu'il y a quand même un imaginaire, j'ai l'impression, de se dire qu'un restaurant bio, c'est un peu dégueu. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on en a parlé, quand on a contacté les journalistes au moment du lancement, il y a un journaliste gastronomique ultra connu qui nous dit « Mais attendez, la restauration durable, c'est pas terrible, c'est toujours la même chose, on bouffe des céréales avec des légumes et tout. »
Du quinoa avec des graines de chia, c'est ça ? Ouais, c'est un peu l'image.
Et donc, il nous a vraiment demandé notre liste de restaurants avant de parler de nous. Puis après, il nous a dit « Ah ok, en fait, c'est pas mal. » Et nous, notre objectif, c'est justement de démontrer le contraire. C'est qu'en fait, bah, la restauration aujourd'hui ne peut être que durable et que c'est en plus ultra bon.
Oui, parce que tu as une sorte de... Mais finalement, tu en es responsable, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on a des verticales ou des choses comme ça. Je dis tu en es responsable, c'est évidemment amical. En fait, on associe assez vite cette mouvance écologique à... justement végétarienne, vegan, etc.
Ouais.
Ce qui n'est pas du tout forcément le cas. Enfin,
pas
tu peux manger responsable et manger de la viande et du poisson, quoi.
Complètement. Ouais. Tu dois... Alors nous, on a des restaurants de viande qui sont labellisés. Hein. On a par exemple Bien Élevé, Bien Ficelé à Paris. Donc on veut permettre à ceux qui mangent de la viande d'en mieux manger. Après, c'est sûr qu'il faut manger moins de viande. Et dans notre grand banquet le 30 novembre, il ne va pas y avoir une énorme côte de bœuf sur la table, qu'on se le dise.
Un méchoui.
mais justement, c'est de montrer que bah, manger autrement, c'est aussi bon en revanche, parce qu'on va réfléchir sur les textures qu'on retrouvait avec la viande. On va mettre la viande en moins grande quantité, mais il va y avoir un
là,
goût.
Là, tu parles d'un combat personnel. Je veux dire, le fait de « il faut manger moins de viande », est-ce que c'est quelque chose qui a un reflet dans Écotable. Est-ce que tu vas dire à tes restaurateurs, il faut proposer moins de viande, il faut moins de viande en proportion, ou c'est pas ta responsabilité ?
Ça dépend pourquoi ils vont venir nous voir. S'ils vont venir nous voir pour des questions de conseil, de je veux diminuer mon empreinte carbone, la question de la viande, elle sera forcément essentielle parce que c'est ce qui a le plus fort empreinte carbone. S'ils veulent être labellisés, nous, sur la viande, ce qu'on va regarder, c'est essentiellement le type de viande qu'ils proposent et en effet la quantité de plats de viande qu'il y a par rapport aux plats végétariens. Mais on va vraiment regarder quel est le type d'élevage et quel est le type de viande proposée en leur disant, bah voilà, dans la viande que vous proposez, sachez qu'il y a quand même des espèces qui ont un impact carbone bien plus faible que la viande que vous proposez.
Je reviens rapidement sur tes apprentissages ou tes grosses plaques ou tout
je
ça.
Je me disais d'ailleurs sur la... Je te coupe, pardon, mais...
Je t'en prie.
Et c'est peut-être toi d'ailleurs qui m'as appris ça, mais aujourd'hui, on a une stratégie qui n'est pas vraiment la stratégie de démarchage en tant que telle, mais qui est plutôt une stratégie de création de contenu. C'est-à-dire qu'on croit vachement que le cercle vertueux d'Écotable, c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui nous suivent, qu'on fasse des contenus suffisamment qualitatifs pour qu'il y ait de plus en plus de restaurateurs qui nous suivent, qui soient labellisés, etc. Donc, bien c'est sûr. La raison pour laquelle on lance le podcast. C'est la raison pour laquelle on va lancer aussi une newsletter, un blog, etc. On croit vachement à ça.
Oui, parce que quand tu auras, a priori, le grand public qui sera très sensibilisé à ça et que quand tu sors dîner ou même quand tu vas déjeuner avec tes collègues et tu te dis « Attends, moi, je déjeune que écotable parce qu'en fait, j'ai cette prise de conscience, etc. » Il y a un moment où si ça représente même 2% de la population, il y aura un afflux massif dans un certain nombre de restaurants. Et je ne sais pas, là, on est dans le 17e. Est-ce que j'ai un restaurant écotable autour de moi?
Alors, le 17e fait partie un peu de ce vide parisien avec le 16e.
Aucun jugement de valeur.
Tu n'as pas de restaurant autour de toi dans le 17e, malheureusement. Mais on y travaille, justement. Là, c'est là où on veut démarcher, en fait. C'est dans les endroits où il n'y en a pas.
D'accord. Les trous dans la raquette. très bien, mais oui, en effet, peut-être qu'il y en a plein, mais qui ne savent pas que tu existes. Bon,
exactement.
En l'occurrence, voilà. Ce qu'il faut, c'est inverser cette tendance, j'imagine, et je ne peux que plus soyer ton approche du contenu et du contenu intelligent pour promouvoir tout ça. Où est-ce qu'on te suit, Fanny? On t'écrit sur Fanny Gianceto à je sais pas quoi, on va sur LinkedIn, sur...
On peut m'écrire sur fanny@ecotable.fr, tout à fait. On peut me suivre
avec
sur
un
LinkedIn.
Y à la fin. Pardon.
Oui, on peut me suivre sur LinkedIn et m'écrire sur LinkedIn. Ouais. Voilà.
Écotable sur...
Écotable, évidemment, le site internet. Bah, bon, on peut nous contacter via l'adresse contact.
Ouais.
Sans aucun problème, on répond de manière très réactive.
Ok. Alors moi j'ai une dernière question, ou j'en ai d'autres d'ailleurs, ça va probablement engendrer d'autres questions. T'es dit une heure, on y arrive, donc tu peux pas me cacher que t'es enceinte, Fanny. tu attends donc un bel événement qui est ton premier enfant. C'est quoi en 2020 ou 2019, 2020, mais d'entreprendre en tant que femme? Enceinte de pas mal de mois, comment on voit l'avenir, comment on se dit je vais vivre tout ça très très bien, je vais réussir à mener tout de front, etc., sachant que tu es un mari entrepreneur aussi.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça?
Bah, déjà, il y a une chose que je voudrais dire, c'est-à-dire que le côté femme dans le milieu entrepreneurial, moi, c'est quelque chose qui a plutôt été une aide plutôt qu'un frein. Parce que je suis arrivée au moment où on avait plutôt envie de valoriser les femmes entrepreneurs. Donc ça a été, je pense que ça m'a fait gagner en visibilité. Donc ça, c'est une chose.
Tant mieux.
Ce qui n'est pas le cas du côté universitaire, en revanche, où là, clairement, on n'y est pas. Mais sur l'aspect vraiment arriver à tout faire, bah, en fait, on en parlait avant le podcast, hein, mais c'est qu'il y a un moment où je me suis posé la question, et notamment avec mon mari qui est aussi entrepreneur, j'arrêtais pas un peu de repousser le moment où on se disait qu'on allait faire un enfant. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Donc, et aussi être engagée un peu dans l'aspect féminisme, c'est de dire, bah, je vais pouvoir y arriver, en fait. Donc, je ne dis pas que c'est simple, ce n'est pas simple. Mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Non. Il y en a plein qui l'ont fait avant toi.
Exactement.
Il y en a plein qui le feront après.
Et puis moi, j'ai eu de la chance, en tout cas, que ma grossesse m'a donné pas mal d'énergie et de ne pas vivre une grossesse difficile, en tout cas pour le moment. Donc moi, j'avais plus peur, en fait, du regard des gens sur moi. De me dire, ah bah non, elle est plus... Enfin, c'est qu'elle travaille plus. Si elle est enceinte, elle va plus travailler après. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, j'ai pas l'intention de pas le faire. Donc, et après, je tiens à dire aussi que je suis extrêmement aidée par mon mari. Donc, c'est-à-dire que... on s'est tous les deux dit, bon, bah, on est tous les deux entrepreneurs, et ben, après l'accouchement, on va prendre en compte cela. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas prendre un congé paternité, que moi aussi, bah, je vais prendre un congé maternité, qu'on va s'entraider, quoi. Ouais. Je vais pas être toute seule avec mon enfant, arrêter de travailler, et que toi, voilà.
C'est quelque chose sur lequel j'ai échangé avec lui.
Je sais.
Et sur lequel, en effet... là, je parle pas en tant qu'homme ou femme, je parle en tant qu'entrepreneur, le congé... paternité, maternité, c'est quelque chose qui me semble très abstrait, pour être honnête. Tu vois, et je trouve ça très bien de faire des choix, tu vois. Mais
après, quand je parle de congé paternité ou de maternité, évidemment qu'il ne va pas arrêter complètement de travailler. Et moi, je ne m'imagine pas non plus. Enfin, ici, il y a un moment où physiquement, je vais devoir me reposer. Donc, je vais arrêter de travailler un petit peu. Mais après, très vite, je ne m'imagine pas ne pas avoir d'activité pendant 3 mois, par exemple.
Mais c'est là où c'est toujours aussi assez... j'ai beaucoup de tendresse Et aussi, je prends beaucoup de recul par rapport à mes invités qui me disent je bosse pas le week-end, par exemple. Alors, mis à part, je sais pas, récemment, Jean-David Benidouchou qui me dit je fais Shabbat, donc le samedi, je suis littéralement déconnecté. Donc là, a priori, ok. Mais la plupart, tous ceux qui sont passés sur podcast qui me disent le dimanche, je bosse pas, je leur envoie un email le dimanche, ils me répondent dans les deux heures, tu vois. En fait. Donc, c'est juste le fait de pas être devant un ordinateur. Mais bon, après, c'est à quel point tu fais un break, t'en fais pas. Est-ce que si quelqu'un, un de tes clients te demande un truc à une urgence
Oui, complètement. Et en même temps, il y a besoin, je pense, si on veut pas devenir fou dans cette société, d'arriver à se déconnecter un peu. Et en ça, Shabbat, je trouve ça génial. Hein,
je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit à Jean-David. Ouais, je suis d'accord.
Et donc là, c'est ce que je me dis aussi, c'est que je me dis, avoir un enfant, c'est quand même quelque chose d'assez fou dans sa vie et qu'il faut pouvoir aussi profiter de ce moment-là. Il faut pouvoir en profiter à deux et mettre ses priorités là où elles sont.
Mais non, on s'en fout.
Je pense, et puis là où je me suis un petit peu calmée, c'est que je me suis dit, en fait, si j'arrête de travailler un mois, deux mois, trois mois, ça va pas changer le fond de ma carrière.
Non.
Je pense que je vais continuer à y arriver ensuite. Donc,
ça va être oppressant pour ton enfant, peut-être pour ton mari aussi. Bon.
Donc c'est relativiser les choses aussi, quoi.
Très bien. Écoute, on a fait un beau tour de tout ça. Je te remercie, Fanny, pour ton temps.
Merci à toi, Mathieu.
Je te dis merde pour Écotable et pour tout le reste, surtout parce que t'as plein de choses qui arrivent, de très belles choses qui arrivent dans ta vie prochainement. Et puis, je voudrais aussi faire une petite mention à j'ai un sponsor, j'en ai pas trop parlé, je sépare généralement, mais qui s'appelle Iscox, qui sponsorisait cette série de Early Stage, qui s'arrête pour l'instant au bout de 6 épisodes, mais je voudrais les remercier vraiment, parce que j'étais ravi de pouvoir faire ça. Ça me prend beaucoup de temps en plus, et du temps, j'en ai pas beaucoup, donc du coup, je vais l'arrêter pour l'instant, mais je reprendrai probablement au printemps prochain, ou voilà. T'as une responsabilité civile professionnelle, tiens, toi, Fanny? T'as une assurance RC Pro ?
Non, je crois pas.
Ben voilà, comme tout le monde. Et ben voilà, Iscox, ce sera fait, .com/.
C'est obligatoire ?
Non, mais en revanche, si tu peux avoir des sacrées emmerdes si t'en as pas. Donc voilà, faites-le. J'ai mis le lien dans le truc. Je vous embêterai plus avec ça, mais ça coûte pas grand-chose et c'est vraiment pas con d'en avoir, voire ultra conseillé.
Ok.
C'est fait.
Bon, toi, t'en as une ?
Ben, bien sûr, attends. Okay. Non, mais j'en ai pas eu pendant longtemps jusqu'à ce qu'un jour, tu sentes un truc qui passe pas très loin et... Pour te donner un exemple, dans mes métiers, mais ça va un peu partout, tu livres une prestation, un site internet, quelque chose à un client, et puis le site ne marche plus, et le client te dit tu me dois 400 000 euros parce que pendant 3 jours mon site n'a pas marché, et que j'ai perdu 400 000 euros de chiffre d'affaires, et techniquement tu peux lui être redevable de 400 000 euros, et t'es responsable parce que selon tes contrats, c'est toi qui es responsable de la disponibilité de son site internet. Voilà. Et en fait, ça peut arriver à plein de niveaux, je sais pas qu'est-ce qui se passe si... Ouais, je vais pas rentrer là-dedans, mais... chez toi, mais dans plein de niveaux. Bon, en tout cas, voilà, pensez à la RC Pro, allez plutôt chez Xcox avec mon lien, comme ça vous leur direz que ça marche et que vous êtes content. Et puis sinon, je vous remercie, je te remercie encore. Et
merci à toi, Mathieu.
À bientôt, à dimanche, avec donc j'essaierai de labelliser Feed sur Écotable. À plus tard, ciao tout le monde.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.